Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Souvenez-vous, en novembre dernier, nous avions parlé de la programmation du Festival des Francopholies d'Esch-sur-Alzette qui se tiendront du 12 au 14 juin. Et si nous en avions parlé en novembre, c'est parce que le directeur du festival, Loïc Clairet, nous avait révélé la majeure partie de l'affiche. Une affiche où, pour rappel, on retrouvait Feu Chatterton, Malcolm Moore, Gims, PLK, Elena, Niska, Sam Sauvage, Mossiman, Christophe Mahé, La Mano 1.9 et plein d'autres choses encore comme Fatal Bazooka. La semaine dernière, Loïc Clairet a refait un point presse, entouré cette fois de Pierre Poli, le directeur artistique en charge de la programmation du festival, et Nicolas D'Assenzio de l'agence Superidée, qui s'occupe à la fois de la scénographie et des expériences autour du festival dans le parc d'Esch-sur-Alzette. C'était donc l'occasion de présenter de nouveaux artistes programmés, comme le duo Terre Noire qui se produira le samedi 13 au théâtre d'Esch-sur-Alzette pour un concert exceptionnel avec les musiciens du conservatoire d'Esch-sur-Alzette. Une programmation Dub Fabrique autour de la musique dub à la culture fabrique le même samedi 13 juin. Plusieurs artistes luxembourgeois qui sont passés par la fabrique des Franco et un artiste de Montréal dans le cadre d'un échange entre les Francopholies d'Esch-sur-Alzette et un festival de la ville québécoise. Et cet artiste, c'est Adam Elmouna. Pour le reste, nous avons pu en savoir davantage sur la scénographie qui serait proposée, une nouvelle scène à 360 degrés où le public sera dans une situation d'immersion. Ils nous ont également parlé d'une signalétique autour des drapeaux et d'une cérémonie du drapeau au moment du passage du jour à la nuit et de tous les différents mondes que l'on retrouvera, le monde de la clairière, le monde de l'observatoire, le monde de l'astrodisco, le monde champifood, le monde forest avec cette fameuse scène à 360 degrés et le monde des fjords avec les fameux bains nordiques qui avaient été expérimentés l'an dernier. Tout cela pour faire de ce festival une expérience unique, où l'on peut se retrouver en famille, entre amis, et vivre une réelle somme d'expériences collectives. Chacun des trois intervenants ont répondu aux questions des journalistes, et l'on commence par Pierre Poli.
Pierre Poli, directeur artistique en charge de la programmation du festival.
On sort de la conférence de presse, et ce qui est très intéressant, vous portez autant d'attention à la programmation des artistes qu'à l'environnement. Il y a le mot expérience qui est revenu aussi plein de fois dans cette conférence.
C'est le propos même du festival, en tout cas de la manière dont on le conçoit, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on se différencie possiblement d'un concert classique dans une salle où on arrive effectivement à 20h, on voit son artiste, on repart à 22h30, on est à la maison. On a cette conception du spectacle comme étant quelque chose qui se vit, se partage, qu'on transcende aussi d'une certaine façon et que la notion même de festival, c'est avoir une espèce de bulle dans un quotidien de vie qui fait qu'on est sur une journée, enfin, c'est ce que nous renvoient finalement les gens quand on a des festivaliers qui nous font un retour sur leur expérience de festival, c'est vraiment ce besoin, cette nécessité d'être déconnecté d'une certaine forme de réalité et puis évidemment aller voir les artistes qu'on aime mais se laisser surprendre aussi par d'autres artistes, d'autres expériences. Et c'est vrai que c'est un peu de cette façon-là qu'on se projette, nous, dans l'avenir des festivals. Et les Francopholies de Esch-sur-Alzette font partie des premiers festivals à vraiment s'orienter dans cette direction, de se dire qu'il faut qu'on appuie là-dessus. Il faut qu'on appuie sur le fait qu'on aurait envie d'aller en festival, pas forcément qu'à travers une programmation. On ne peut pas être forcément toujours que dépendant d'une programmation, mais aussi parce qu'il y a un environnement, un état d'esprit, des expériences. On se laisse surprendre et on se sent bien dans cet endroit-là. Donc on a vraiment décidé de prendre cette direction-là. On l'a déjà pris depuis quelques années, mais là, on va vraiment l'affirmer à partir de cette année-là.
Ce festival, c'est un peu trois jours, trois ambiances. C'est ainsi qu'il a été conçu, avec potentiellement des publics différents pour chacun des trois jours.
Absolument. En fait, les programmations sont pensées de cette façon-là. Je programme aussi les Franco de La Rochelle ou d'autres Franco. On a vraiment pris le parti de se dire qu'on a un fil conducteur qui est quand même la ligne éditoriale et artistique, évidemment, des Francopholies, qui se veut d'être une forme de vitrine un peu de l'actualité musicale, mais d'avoir chaque journée quand même une couleur qui nous permet aussi d'aller capter des publics qui peuvent être complémentaires, tout en ayant quand même des publics qui s'orientent quand même sur les trois jours du festival. On peut, quand on est en famille, on a évidemment, si on a des ados ou si on est jeune adulte, on va aussi prendre beaucoup de plaisir à aller voir une journée rap, hein, aujourd'hui, qui est la culture qui est écoutée par 85% à peu près des 16-25 ans. Donc évidemment, on ne se passe pas de ce public-là et au contraire, on est très soucieux de renouveler aussi le public des festivals et en allant chercher de la jeunesse. Et puis oui, chaque journée a un petit peu son histoire, son fil conducteur, son ambiance, son esprit et sa couleur. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des soirées qui ne se concurrencent pas non plus et d'être certain d'être dans une forme de représentation la plus objective possible du spectre de la musique française, quoi.
Alors si on veut détailler un peu, ça donne quoi vendredi, ça donne quoi samedi, ça donne quoi dimanche?
Vendredi, on est plutôt sur pop, rock, Et ouverture sur l'international, donc évidemment Feu Chatterton, Macklemore, Sam Sauvage qui est lecteur de la musique, Mickey, tout ça sont des artistes plutôt pop-rock. Et puis on a toujours évidemment la question de la musique électronique dans le festival qu'on retrouve sur les trois jours, mais ce soir-là particulièrement avec Moziman, un samedi qui est plutôt rap, musique urbaine, avec aujourd'hui ce qui se fait quasiment de mieux en rap français, hein, PLK qui a fait deux stades de France, Niska qui va annoncer un stade de France, Lamano, L2B qui sont les deux projets qui sont en train d'exploser littéralement depuis 6 mois, et puis des artistes émergents évidemment autour de cette esthétique-là, et puis un dimanche qui est plus familial, plus variété, avec évidemment Gims, Elena, Christophe Maé, Louisa, qui sont un peu les artistes qui gravitent autour de la musique populaire et qui représentent assez bien ce qu'on attendait de ce dimanche-là.
Aujourd'hui, vous nous avez annoncé un complément de programmation, notamment dans un lieu satellite, le Théâtre d'Esch, et également un complément de programmation les trois autres jours avec des artistes luxembourgeois. C'est important de s'ancrer dans le territoire. Et également, l'innovation, c'est ce pont culturel avec Montréal.
En fait, un festival, c'est aussi un espace de découverte, c'est aussi un endroit où on se doit vraiment, je pense que ça fait vraiment partie des missions, d'avoir une proposition d'artistes locaux, régionaux, d'artistes émergents, parce que ce sont possiblement les stars de demain, donc il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on les accompagne et qu'on représente aussi ce qu'est ce territoire du Luxembourg avec toutes ses spécificités. Il y a 3 langues officielles, il y a une vraie production locale qu'on essaie d'accompagner aussi à travers notre dispositif de la Francofabrique où on accompagne des artistes chaque année, et donc on a cette pluralité, cette diversité. On la retrouve aussi dans les typologies de lieux dans lesquels on programme, parce qu'évidemment il y a ce qui se passe au parc. Et on est très attaché au fait d'aller collaborer aussi avec les acteurs du territoire du Luxembourg et évidemment avec le théâtre de Esch, dans lequel on propose quand même depuis plusieurs années des artistes plutôt chansons, et la culture fabrique, où on s'inspire un petit peu de la ligne artistique de ce lieu-là pour aller plus sur des cultures alternatives. On y va sur du métal, sur du rock, sur la musique électronique. Et cette année, on fait une soirée autour de la culture dub, qui est une culture qui a aussi toute sa place dans la production française. Ouais.
La Francofabrique, comment est-ce que vous accompagnez ces artistes luxembourgeois-là ?
On les sélectionne avec un comité de sélection, donc les artistes postulent. On en repère aussi, nous, dans les concerts qu'on peut aller voir. Et puis, on en sélectionne 2 par an. Et ensuite, on s'enferme avec eux pendant 1 semaine. Et on fait venir des contributeurs, des coachs de France qui viennent du chantier des francophonies, qui est un peu ce dispositif-là qui existe depuis 25 ans à La Rochelle, où beaucoup d'artistes aujourd'hui très connus sont passés par là. Christine and the Queen, Juliette Armanet, Big Flo et Oli, Zao Tsegazan, sont passés vraiment là, alors tout début de carrière. Donc, on a voulu créer un dispositif un peu similaire. Et donc, pour différencier le travail qui est déjà opéré par d'autres acteurs sur le Luxembourg, on a pris le parti de faire venir justement des coachs de France pour travailler un peu différemment sur vraiment le propos scénique. Et voilà, et donc on s'enferme avec eux pendant 1 semaine, ils font un concert de restitution. Et l'idée, en fait, c'est on a repéré d'un vrai potentiel artistique, on a repéré peut-être des fragilités un peu sur scène. Et l'idée, c'est de construire avec eux le meilleur de ce qu'ils peuvent être sur scène, en fait. Et alors, on a des coachs vocaux, on a des gens qui travaillent sur la posture, la respiration, sur la gestion du corps, sur la posture sur scène, sur le regard du public, sur le choix des bons titres, pour faire en sorte que ça devienne, pour caricaturer, des bêtes de scène, quoi, en fait, en gros. Mais ils ont déjà cet héros-là, et l'idée, c'est de le faire en sorte de l'améliorer. Et évidemment, ils présentent ensuite leur travail sur les francophonies de Esch sur Azette. Et puis, on écrit une histoire avec eux, puisqu'on les retrouve, ces artistes qu'on a accompagnés, on les retrouve les années suivantes. On leur propose de les revoir, d'ailleurs, parler un petit peu de où ils en sont dans leur actualité. On arrive parfois à les programmer sur d'autres francophonies. On en a qui sont partis à Montréal, on en a qui sont partis aux francophonies de La Rochelle, en Belgique. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ça s'ouvre. Et c'est dans ce cadre-là où on a en effet créé une passerelle aussi avec Montréal, avec un festival qui s'appelle M pour Montréal, qui est un festival vraiment dédié à l'émergence, et on échange des artistes avec eux. Nous, on va accueillir un artiste québécois et on enverra sur l'édition prochaine un artiste luxembourgeois.
Côté billetterie, vous nous avez annoncé qu'on s'achemine vers une année record au niveau des réservations, notamment les billets de moins de 12 ans sont en plein boom. Vous avez convoqué la presse pour en parler à nouveau du festival. Vous n'avez pas peur de créer de la frustration pour ceux qui ne pourront pas avoir de billets ?
C'est, oui, non. Enfin, en fait, c'est aussi qu'on a besoin d'expliquer ce qu'on est en train de mettre en place dans ce festival. Effectivement, il y a ce risque, notamment sur le dimanche, on puisse créer un peu de frustration. On en est désolé. Et on sera très fiers, en tout cas, si on arrive à effectivement faire en sorte que ce soit une réussite. C'est aussi une forme de réussite régionale de se dire qu'on a un festival sur notre territoire qui grandit, qui trouve son public. Et après, il reste de la place encore sur les vendredis et le samedi, encore un peu sur le dimanche. Donc, si vous s'y prenez assez vite, peut-être que vous pourrez mieux gérer votre frustration. Il n'y en aura peut-être pas, tout simplement. Ouais.
On vous souhaite que tous les jours soient complets, mais si tout est complet, la solution pour l'année prochaine ne sera pas faire un festival sur 4 jours.
Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui veulent absolument agrandir le festival, que ce soit effectivement grandir la jauge ou ajouter le nombre de jours. Peut-être que le nombre de jours, ça peut être une solution. Ou juste se dire qu'on continue de travailler dans la précision, dans ces travaux d'animation. Et peut-être que. Et puis après, on est aussi très dépendant de l'actualité musicale. Là, il se trouve que cette année, il y avait énormément de choses qui s'alignaient, en fait, qui ont fait qu'on a pu construire cette prog. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en 2027. Donc, ça, c'est mon angoisse permanente. Mais peut-être qu'un 4e jour, je ne sais pas. En fait, à vrai dire, vraiment, je ne sais pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'agrandira pas le festival. On veut rester un festival à taille taille humaine. On veut rester à un endroit où on peut passer d'une scène à l'autre en une ou deux minutes. Les grandes messes avec 40 000 personnes, Puis en plus, il y a un vrai désamour, j'ai l'impression, pour ce genre de grands événements.
L'orientation, c'est peut-être de créer une famille avec le public qui vient d'année en année.
Oui, il y a tout ce travail de communauté, créer plus de liens encore avec le festival, peut-être en créer plus à l'année, imaginer peut-être des événements à l'année, peut-être imaginer, ce lien en fait qu'on pourrait garder avec le public, mais aussi dans le principe de pouvoir s'adresser aussi à des nouveaux publics. On veut pas non plus que ça soit sclérosé forcément. On verra. Franchement, on fait passer une édition, on se fait un bilan derrière, on réimagine plein de nouvelles choses. Donc je vous dis ça et ça se trouve, ça va être autre chose. Je sais pas.
On a vu l'affiche qui a été faite donc avec un illustrateur. Vous avez aussi insisté beaucoup sur l'art plusieurs fois. Est-ce qu'il y a aussi un besoin en ce moment avec notamment beaucoup d'affiches qu'on voit faites avec intelligence artificielle, etc., de rappeler le rôle de l'art aussi dans les festivals ?
Bien sûr, en fait, c'est d'abord un endroit de culture. Ce n'est pas qu'un endroit de divertissement. Et je ne sais pas si vous pouvez faire la différence entre les deux, mais c'est un endroit où on a envie d'éveiller un petit peu la créativité, amener des publics à travers les différentes animations qu'on peut proposer, à s'amuser, à se questionner parfois même un peu, d'une certaine façon, sur notre société. Et en tout cas, participer au mieux vivre ensemble. Ça me paraît être une des bases des festivals. C'est la question des valeurs, la question du respect, et du respect notamment de notre planète, hein, parce que c'est un festival qui est certifié... responsable, c'est le cahier des charges est quand même très très lourd, et puis il y a évidemment cette notion de vivre ensemble, de se retrouver et de faire corps dans un endroit où tout est plus ou moins permis, et dans un endroit où on, quel que soit d'où on vient, notre religion ou quoi, on est face au même objet artistique et on peut prendre plaisir et on peut juste à un moment donné communiquer, se regarder et se dire que en fait on est tous un peu pareil quoi.
C'est avec Loïc Léré puis directement Nicolas D'Assenzio que l'on parlera davantage d'ambiance, d'expérience et de scénographie.
Loïc Cléret, et donc je suis le directeur des Francofolies de Hesch.
Vous nous promettez une belle programmation, mais aussi une expérience. Vous pouvez nous expliquer ça ?
On le fait déjà depuis quelques années. L'idée, moi, quand je vais voir un festival, c'est de vivre le festival que j'ai envie, et je crée le festival que j'aurais envie de vivre aussi. Et donc l'expérience est très importante, à la fois visuellement, parce qu'on a un souci du détail et de l'accueil dans ce magnifique parc. En fait, on nous dit toujours qu'il faut le magnifier encore plus qu'il ne l'est. Et puis après, c'est d'amener pas mal de choses autour de la musique, parce que finalement, quand on fait un festival, on se crée du souvenir, on veut créer des moments ensemble. Et le concert, on l'écoute, on le regarde, et puis après, à côté de ça, on peut aller se balader et puis faire ce qu'on fait déjà depuis quelques années, aller dans une mini discothèque, parce que ça aussi c'était une mauvaise volonté. Quand on est seul ou à deux dans un festival, parfois on peut se dire c'est un peu long et ennuyant. Donc je me suis dit faisons la fête en petit comité. Donc les mini-discothèques sont là pour ça. Les bains finlandais qu'on a lancés l'année dernière, qu'on va reproduire cette année parce que ça a bien plu et parce que moi j'aime toujours l'idée de pouvoir se baigner en plein milieu du festival. Et puis d'autres choses qui vont encore arriver cette année, comme des expériences de glissade par exemple et d'autres choses, mais on va pas tout vous dire en termes d'expérience, ça c'est quand même important. Et puis visuellement parlant, on repense tous les mondes en fait dans le festival, et donc on a une atmosphère et une scénographie qui va être totalement nouvelle en repensant le site aussi. On a une scène qui disparaît, elle est remplacée par un autre monde forest, où est-ce qu'on va pouvoir vivre dans une forêt avec des artistes en 360 degrés et puis en continu. Et une des grandes expériences, et on y croit beaucoup, c'est le passage et le rituel du jour vers la nuit avec une levée de drapeau qui symbolise finalement que le festival se réinvente dans sa propre journée.
Justement, cette notion de drapeau, il n'y en aura pas que un, il n'y en aura pas que deux, sera une des notions très importantes de cette édition.
C'est ça, oui. En fait, moi j'ai des images, par exemple, de festivals comme Glastonbury ou d'autres avec des drapeaux partout. Et finalement, le drapeau, ça fait beaucoup de sens, ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte à la fois des univers, des mondes, mais ça raconte aussi les histoires des communautés, de créer ensemble. Et donc, on amène le drapeau pour toutes ces symboliques et on a développé notre propre thématique de drapeau qui à la fois vont marquer les mondes, mais aussi un drapeau qui va être plutôt le drapeau du festival et qui va faire qu'on va s'unir. Ce moment, en fait, finalement, de ritualisation, c'est aussi un moment où tout s'arrête dans le festival et on va tous venir dans le lieu central qu'on appelle le village aujourd'hui. Et ce village, c'est aussi pour dire finalement, on fait corps, on fait sens, on est tous unis autour de ce passage et de ce rituel. Donc ça a plein de symboliques, le drapeau, et on en aura quelques dizaines sur le site, oui.
Y compris pour la signalétique réalisée par l'artiste qui a fait l'affiche.
La signalétique et l'affiche, alors on les détache un tout petit peu vis-à-vis des drapeaux parce que finalement l'affiche, nous on aime beaucoup la raconter une édition par son vecteur et par l'illustrateur, mais on a aussi toujours souci d'éco-responsabilité, donc on ne peut pas chaque année reproduire des signalétiques qui soient identifiées ou trop thématisées pendant sur l'année en question. Et donc on a créé quelque chose qui est un peu à côté mais qui va rester dans le temps sur le parc, et l'affiche va revenir par des symboles et par différents éléments mais qui sont moins impactant que des grands drapeaux qu'on va garder pour plusieurs années.
Un bon festival, ça commence dès qu'on quitte sa maison, et pour ça, il y aura tout un dispositif qui sera mis en place.
C'est ça, oui. Je me dis toujours, quand je sors de chez moi et quand je rentre chez moi, je veux que l'expérience soit bonne. Je veux pas galérer, finalement, à me dire où est-ce que je vais me garer, comment je vais faire, qu'est-ce que je fais avec mes enfants, etc. Donc là, on répond pas à toutes les questions, évidemment, parce qu'il faut quand même réussir à venir jusque-là. Mais par contre, on essaie d'accompagner le public du début jusqu'à la fin, soit parce que les transports en commun sont disponibles, parce qu'on met en place des navettes, parce que les parkings sont assez simples autour de la ville. Après, vous êtes sur un P+R, vous prenez le train. En 5 minutes, vous êtes au pied du parc et vous êtes tout à fait à l'aise. Voilà, on a pas mal de dispositifs qui permettent finalement de se dire « bon, c'est pas si compliqué ». Et après, une fois qu'on est sur le festival, on a juste à profiter et c'est ça le plus important.
C'est un festival qui se veut familial, on peut venir avec des ados, avec des enfants.
C'est ça, oui. Au départ, on ne revendiquait pas de telle sorte, pas aussi fortement qu'on était un festival famille. Puis, en fait, l'expérience et les années ont montré que finalement, les gens se sentaient bien et venaient en famille. Et donc, autant le jouer à fond et faire en sorte que ça se passe très bien pour les familles. Et donc, cette année, on a des espaces enfants qui seront encore plus travaillés. On a un espace pour les adolescents. On renforce les dispositifs aussi pour la question de l'écoute et de la protection auditive. Et donc, on a vraiment mis en place tout un système qui permet de se dire, OK, je vais avec ma famille, en fait, j'y suis très bien, il n'y a pas de problématique.
On a parlé des drapeaux, il y en a un en particulier avec une chauve-souris dessus, il y a encore quelques mystères autour de ce monde.
C'est ça, oui. Alors c'est un monde particulier, alors je ne dirais pas c'est quoi, mais le public aura tout le plaisir de le découvrir en étant sur place. En tout cas, la chauve-souris, ça devient un peu un emblème, un totem finalement pour le festival. Puis aussi, il fait sens justement avec tout ce que je racontais juste avant, c'est-à-dire que la chauve-souris, elle se réveille la nuit. La chauve-souris, elle a toute une symbolique. Et puis surtout, c'est un animal hyper important dans le parc, puisque c'est un animal qui est quand même protégé et dont on fait très attention quand on s'installe dans un lieu aussi précieux que celui-là.
Nicolas D'Essenzio et je travaille sur la scénographie et les expériences autour du festival des Francofolies de Hesch.
Justement, la scénographie et l'expérience, il y a 50% c'est les artistes et l'autre 50% c'est l'expérience qu'on va découvrir lors de cette édition.
Alors je sais pas si c'est 50% mais effectivement l'idée c'est de... Le festival a été pensé en termes de monde, effectivement en termes d'expérience, au-delà de la programmation musicale. L'enjeu c'est qu'en plus d'aller voir les groupes de musique qu'on souhaite découvrir, c'est d'aller de monde en monde et de tomber sur des expériences immersives, des scénographies contemplatives qui permettent de créer des souvenirs, des moments en famille, entre amis, qui soient singuliers et dont on puisse se remémorer très longtemps après le festival lui-même.
Très concrètement, ça veut dire quoi des expériences dans des circonstances de festival ?
Ça veut dire qu'il va y avoir des mondes, par exemple un monde qu'on appelle Fjord, dans lequel on aura des bains nordiques, on pourrait être en maillot de bain à côté de la grande scène pour écouter une musique immersive autour de la nature. Les mini-discos qu'on a pu découvrir l'année dernière, une zone enfant, une zone ado. Donc vraiment l'idée c'est de penser le festival au-delà de la programmation musicale comme une zone d'expérience avec des animations. Donc, l'idée c'est de ne pas tout dire pour se laisser surprendre. Il y aura plein d'happening en quelque sorte en plus des différentes scènes de musique. On a parlé notamment d'une scène immersive à 360. L'idée c'est de mettre le spectateur dans une position d'écoute de concert qui soit différente de celle dont on a l'habitude, simplement on va dire devant une scène avec l'artiste qui nous surplombe. Là l'idée c'est de changer la donne dans les différentes zones du festival et c'est vraiment faire de quelque chose de singulier, c'est-à-dire qu'on va découvrir Macklemore, Gims, PLK, mais dans des conditions qui sont vraiment différentes que l'on pourrait le faire dans un Zénith ou dans un autre festival. Il y a vraiment un point d'orgue à créer un univers visuel qui soit vraiment chouette et très singulier pour découvrir la musique.
Les bains nordiques étaient déjà présents l'an dernier. Quel retour vous avez eu du public à ce niveau-là ?
Ça a fonctionné de feu. Les gens, effectivement, sont surpris de trouver ce genre de dispositif à l'intérieur d'un festival de musique, de se dire « je peux faire une pause, je peux contempler, je peux aller dans un bain nordique avec mes amis et ma famille » et encore une fois, créer des souvenirs dont forcément, j'aurais pas eu l'occasion si je n'étais pas présent à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, il y a eu un très bon retour des festivaliers. Et puis, c'est simple, en fait. Tu arrives, tu as ton maillot de bain, tes serviettes, tes cabines, tu rentres, tu vis ton expérience et puis tu vas retourner voir un concert. Donc, c'est assez chouette et c'est quelque chose que tu ne peux pas voir ailleurs.
Donc il faut venir avec son maillot de bain ?
Alors non, les maillots de bain sont sur place avec les serviettes et c'est comme les autres expériences. L'idée c'est justement que tu viennes voir ton concert et de monde en monde, tu vas tomber sur des surprises. Je parlais de la zone enfant, on a la possibilité par exemple, quand on est en couple ou pas d'ailleurs et qu'on est accompagné d'un enfant, on va pouvoir le laisser vivre une expérience immersive, notamment là autour de jeux, autour de la notion d'espace et de conquête spatiale pendant une heure et demie et pendant ce temps-là on va voir son concert et on revient et on récupère son enfant qui a vécu une expérience incroyable en termes de numérique, de digital, de manipulation d'objets et puis on retourne faire autre chose avec lui. Donc l'idée c'est de partager avec les enfants mais en même temps d'avoir son petit moment à soi. Il y a une zone ado où que les adolescents auront le droit de rentrer, c'est interdit aux adultes. On retrouve des bandes d'arcade, une zone milkshake, des endroits pour brancher son téléphone, peut-être pour suivre quelques trends TikTok, etc. Et là aussi interdit aux adultes, là aussi c'est un petit monde à part, une zone autour de la nourriture qui va être scénographiée avec des gros champignons, donc là aussi à découvrir. Donc en soi, il y a une logique de petit parc d'attractions, et ce qui va être assez stimulant finalement pour les festivaliers, en plus de l'expérience musicale qui reste évidemment le cœur de la proposition.
Il va y avoir un rituel du drapeau, est-ce que c'est possible de nous décrire ce qui va se passer ?
La cérémonie du drapeau, l'idée c'est d'avoir un festival qui se joue de jour et nuit. À la tombée de la nuit, on aura un personnage principal, j'en dis pas plus, qui va apparaître et qui va effectivement passer le drapeau du festival du mode jour et il va hisser le drapeau de nuit. Et là, l'expérience complète sur l'ensemble du festival va se changer et on va avoir les lumières qui vont s'allumer, les groupes de musique s'arrêtent de jouer pour laisser place à cette cérémonie. Et là aussi, c'est de casser le rythme d'un festival habituel où on enchaîne les concerts. Là, l'idée c'est de se dire on a une petite parenthèse. Un happening géant à l'échelle du festival et on crée un moment de rassemblement parce que je crois que les festivals, au-delà de la proposition musicale, ce qui est beau et intéressant dans ce qu'on a à proposer, c'est le rassemblement et de se dire finalement il y a une communauté qui se crée sur un temps donné et ben l'idée c'est d'avoir une cérémonie pour tous se rassembler et fêter l'arrivée de la nuit et la tombée du soleil.
Si vous avez compris les messages, il faut vite acheter vos billets si vous voulez profiter de l'occasion. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.